Isabelle Moral, vous avez dans votre enfance fréquenté les écoles religieuses. Estimez-vous que l'enseignement religieux qui vous a été donné était un enseignement aliénant?
Aliénant, non. On m'a appris la doctrine chrétienne. Qu'il ait été très excitant tous les jours, ça, je ne vous le dirai pas. Quand nous étions petites filles, nous avions un catéchisme qui était par demande et par réponse. Il fallait l'apprendre par cœur et demande et réponse. On savait tout, je sais encore. Alors, est-ce que c'était vraiment s'adresser très profondément aux intelligences? Je ne pense pas. D'autant plus qu'il y avait de temps en temps des élèves qui répétaient les formules de travers et qui disaient des bêtises invraisemblables. Bon, donc c'était pas très intelligent. Mais enfin, ça a été le premier stade. Après cela, on nous a donné des ouvrages fort solides, qui étaient d'ailleurs en usage dans les séminaires. C'était la doctrine catholique de Boulanger. C'était en 3 volumes. Il y avait vraiment tout ce qu'on peut savoir sur la doctrine catholique. Nous l'avons apprise. Là, on nous l'a développée. C'était un prêtre qui était chargé de l'enseignement religieux. Il l'a développée assez abondamment. Nous n'avions pas le droit de poser beaucoup de questions. C'était pas le genre à ce moment-là. Alors, on écoutait. On apprenait. Et on croyait parce qu'il y avait quelque chose à ce moment-là. Nous avions confiance, et une confiance absolue, dans les gens qui nous instruisaient. Nous étions convaincus qu'ils nous disaient la vérité, qu'ils ne pouvaient nous dire que la vérité. Ils ne seraient pas venus à l'idée qu'ils pouvaient se tromper. Alors, ça nous rendait dociles.
Vous vous êtes jamais dit, justement, enfin, après une remarque comme celle-là, vous êtes jamais dit, on vous a jamais dit, eh bien oui, c'est ça, vous étiez au fond des esprits crédules, des esprits qui manquaient de sens critique, etc. Si vous aviez eu un peu plus de sens critique, eh bien, vous n'auriez pas réagi de cette façon.
Vous vous imaginez qu'à 16 ans, quand vous passez votre baccalauréat, quand vous lisez Diderot, quand vous lisez Montaigne, quand vous lisez Voltaire, quand vous lisez Nietzsche, quand vous lisez Schopenhauer, quand vous lisez Freud, vous ne posez pas de questions.
Alors ces questions, elles n'ont pas justement, elles ne sont pas adressées à vos professeurs de religion?
Alors, non, on ne les posait pas aux professeurs de religion, on se les posait à soi, en dehors du cours d'enseignement religieux.
Parce que vous trouviez que c'était plus important de les adresser à vous-même ou parce que vous pensiez au contraire que ces professeurs
n'auraient pas accepté? Ils n'auraient pas accepté que nous leur posions ces questions-là. Ils auraient considéré que nous étions des esprits forts et insoumis.
Et ça ne vous gêne pas d'avoir eu affaire à de tels éducateurs?
Pas du tout. Ça ne m'a pas gêné. Je me suis posé ces questions à moi-même. Je me suis dit, ces gens-là font leur métier d'éducateur religieux. Ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Ils connaissent leur affaire. Ils exposent leur affaire comme un mathématicien m'expose son affaire. Et maintenant, c'est à moi de régler mes propres problèmes. Je reconnais que la méthode d'enseignement est mauvaise. Je ne la conseillerais à personne. Mais ça ne m'a pas aliéné.
En d'autres termes, vous pensez que tout n'est pas donné par le professeur, que chacun a pour soi à faire sa propre éducation de la foi.
Mais un élève, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui réagit, qui doit s'arranger avec lui-même, qui a sa vie intérieure, qui a sa propre débat, qui a ses propres débats. Ce qu'un professeur peut faire de mieux, c'est précisément inviter les élèves à débattre comme ça avec eux-mêmes. Ça leur rend grand service. Mais enfin, la doctrine catholique, il faut quand même la connaître.
Oui. Et je voudrais vous poser 2 questions à la suite de ce que vous m'avez dit, deux objections en fait. Une qui vient, par exemple, de psychanalystes, de psychiatres, et qui vont vous dire d'une part, n'est-ce pas, que finalement, cette doctrine catholique, elle est source de névrose, n'est-ce pas? C'est une première objection. Il y a une deuxième objection que je voudrais vous poser à vous qui avez été dans l'enseignement toute votre vie. Certains éducateurs actuellement, surtout des éducateurs qui se rattachent aux théories de Piaget, vont dire cet enseignement religieux, cet enseignement doctrinal, en fait, étouffe la vie intellectuelle, empêche la formation d'une pensée formelle. Je voudrais que vous me disiez quelle est votre position par rapport à ces deux objections.
Alors, premièrement, la névrose chrétienne.
Oui.
Les onze chrétiens. Grande question. Alors là, je crois simplement que les éducateurs devraient faire attention aux enfants crédules, scrupuleux, trop sensibles, et qui peuvent faire des contresens sur ce qu'on leur enseigne. Il peut y avoir de très mauvais éducateurs qui donnent du péché une notion effrayante. Mais ce n'est pas l'esprit chrétien, ça. L'esprit chrétien, c'est un esprit de miséricorde. Vous êtes un pécheur. Vous êtes un pécheur pardonné. Quel est vraiment le gamin qui a 8 ans, 9 ans, et qui, s'il est loyal avec lui-même, ne dira pas que de temps en temps, il est agressif, il est égoïste, il est jaloux, il ment. Il sait bien qu'il est capable de
pécher. Oui, mais ça, ce sont des défauts. Est-ce nécessairement un péché au sens de la doctrine chrétienne ?
Ah, moi je pense que dès que vous êtes entraîné à manquer à l'amour, et dès que vous êtes entraîné à manquer à la vérité, vous êtes un pécheur. Vous offensez Dieu, qui est l'amour et qui est la vérité. C'est dans ce sens que c'est un péché.
Oui, mais y a-t-il vraiment volonté de mal faire ? Et pourquoi justement inculquer cette volonté
mais
de mal faire ?
Les garçons et les filles, je vous dis, à 8 ans, savent très bien qu'ils feraient mieux de faire autrement. Ne pas donner le coup de poing qu'ils ont envie de donner. De ne pas chaparder l'objet qui chaparde, de ne pas tromper leur père ou leur mère. Ils savent très bien, mais ils savent très très bien qu'ils font mal. Ils sont les premiers à le savoir. Seulement, cela ne doit pas leur donner le mépris d'eux-mêmes. Ils savent aussi très bien que lorsqu'ils ont reconnu leur erreur devant leur père et leur mère, ils sont pardonnés et qu'ils sont délivrés parce qu'ils ont été pardonnés. C'est ça la mentalité chrétienne. Le pécheur pardonné.
Et pour vous, donc, ce n'est pas une cause de névrose.
Ah, je pense que la doctrine chrétienne enseignée dans l'esprit du Christ, qui est un esprit d'amour, 77 fois, 7 fois pardonné. Hein ? Vous croyez qu'il y a de quoi faire des névrosés ?
Déjà, le temps de faire le calcul, hein, 77 fois, 7 fois.
Vous croyez qu'il y a de quoi faire des névrosés, le bon larron. Marie-Madeleine, l'ouvrier de la 11e heure, hein? La brebis perdue.
Et livret.
Livret qu'on laisse dans le champ, le fils prodigue. Ça vous névrose?
Et l'autre objection, l'étouffement de la vie intellectuelle.
Alors,
la curiosité.
L'étouffement de la vie intellectuelle. Alors, je pense que si vous assénez une doctrine catholique sans, en même temps, donner une culture libérale, vous courez le risque d'étouffement intellectuel.
Qu'est-ce que vous appelez une culture libérale ?
Eh bien, c'est connaître la science, la littérature et la philosophie, non seulement de son temps, mais qui s'est développé à travers les âges. Ce que on vous donne, somme toute, quand on vous fait préparer votre baccalauréat, on vous fait traduire Lucrèce, on vous fait étudier la Renaissance, on vous fait étudier ces hommes dont je vous parlais tout à l'heure, les Montesquieu, les Voltaire, les Diderot, les Montalembert, les Jean-Jacques Rousseau, et puis plus près de nous, les Bergson, Jacques Monod, les
ça.
Freud, tout ça, ça vous pose des questions. Ça vous pose des questions. Les unes vous encouragent à croire, les autres vous font sérieusement douter. Alors, la doctrine chrétienne et cette culture, je pense que les deux sont très complémentaires. Si vous avez toute la culture universelle et pas la doctrine, vous êtes complètement perdu. Si vous avez la doctrine sans la culture, vous risquez d'être conditionné. Les deux, ça vous fait vraiment des gens équilibrés.
Isabelle Moral, le fond de la question quand même reste suivant. Est-ce que la foi que vous avez, c'est parce que cette foi-là, elle est transmissible?
Moi, je pense que tous les enfants, tous les hommes, de toutes les couleurs, sont faits à l'image de Dieu. Ils sont donc faits pour recevoir la foi. Ils sont faits pour ça. C'est ce qu'il leur faut. Par conséquent, la foi doit être transmissible si elle trouve ses accents. Le monde d'aujourd'hui la rend très difficile parce que nous vivons dans un monde où la pensée est technique, scientifique et expérimentale. Alors, nous perdons complètement de vue le sens des réalités invisibles, ce Dieu qu'on n'a jamais vu. Ce Jésus-Christ qui est mort et dont vous dites qu'il vit. C'est difficile à croire dans notre monde scientifique et expérimental. Ce monde dans lequel nous avons une telle notion de la relativité, parce que nous connaissons toutes les cultures, nous connaissons toutes les mentalités, nous connaissons toutes les différences d'évaluation morale, ça nous rend tout cela, la transmission de la foi, très difficile. Ben, le problème d'un témoin du Christ aujourd'hui, c'est de vaincre ces obstacles. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que vivre dans cette mentalité scientifique, techniciste et relativiste, cela rend les jeunes très malheureux. Ils veulent autre chose, ils cherchent autre chose, ils ne savent pas dire quoi. Quand ils vont se réfugier dans une secte, c'est pour ça.
Mais la foi n'est-elle pas une chose si personnelle que finalement elle ne peut surgir que d'un mouvement de soi-même? Alors comment peut-on parler d'une transmission de la foi?
La foi, c'est un mouvement personnel, oui. C'est un mouvement personnel parce que c'est une réponse. Mais ce que vous pouvez transmettre, c'est l'appel. Quelqu'un qui ne connaît pas la religion chrétienne, ou qui la connaît mal, ou qui en a une image totalement déformée, ou qui s'imagine que c'est une espèce de superstition moyenâgeuse qui n'est plus du tout faite pour notre temps. Quelqu'un qui n'a pas bien lu l'Évangile, qui n'a pas bien lu l'Ancien Testament, qui ne connaît pas non plus les développements que l'Église a donnés à la révélation à travers les siècles, par les conciles et par les définitions de l'Église enseignante, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, ne sait pas ce que c'est qu'être chrétien. Alors, oui, la foi est un mouvement absolument personnel, c'est ce oui qu'on dit à l'Évangile. Vous ne pouvez absolument pas le transmettre, ça. Mais ce que vous pouvez transmettre, c'est la vraie connaissance de la foi et de ce qu'elle comporte et de ce qu'elle implique. Jésus qui s'est révélé comme la vérité, comme la vie, comme la lumière du monde. Jésus qui a parlé du Père, qui nous en a témoigné véritablement. Si vous ne faites pas connaître cela, comment voulez-vous que les jeunes répondent? Alors, je vous dirai toujours ça, qu'on ne sait pas assez. La connaissance est libératrice. Et l'ignorance est aliénante. Si vous laissez les jeunes dans l'ignorance religieuse, vous aurez de moins en moins de chrétiens. Alors, ce n'est pas la foi que vous transmettez, mais vous la proposez. Seulement, je crois qu'en la proposant aussi, il faut en donner témoignage. Il faut faire voir aux jeunes ce que c'est que des chrétiens. S'ils ne voient pas vraiment ce qu'est un chrétien, il ne suffit pas qu'ils aillent à la catéchèse. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Ben, il croit, il espère et il aime. Alors le premier témoignage à donner, c'est le témoignage de l'amour. Ça m'a toujours paru quelque chose de fondamental en milieu athée ou incroyant. Le témoignage de l'amour chrétien. Le témoignage de l'espérance. Les jeunes aujourd'hui sont désespérés par la vision du monde que leur donnent les informateurs. Ils en ont une vision catastrophique. Nous avons tous les jours, deux fois par jour, notre ration de misère, de conflit, de drame, de catastrophe. Et après ça, les jeunes vous disent, est-ce que dans ce monde-ci, est-ce que le monde actuel vous permet de croire en Dieu? Ils ont besoin d'espérance. Les choses qui permettraient d'espérer dans le monde, vous pourrez le dire à vos camarades qui s'occupent de télévision informative, on ne les voit jamais. On a très rarement une information tonique. Tant et si bien que je rêve toujours, parce que j'aime bien rêver, de monter une émission de télévision qui serait le quart d'heure de l'espérance, où on donnerait aux jeunes et aux autres et aux vieux aussi le témoignage de gens heureux, de vie heureuse, de la sérénité humaine. Il s'en fait des belles choses dans le monde. Alors pour en revenir à notre affaire, il faut être pour les jeunes un témoin d'espérance. Et puis il faut être, que voulez-vous, il faut être un témoin de foi. La foi, c'est dire ce que nous disions tout à l'heure. Seul, je ne peux rien. Tout m'est donné. Je ne peux quelque chose que dans la prière. Des jeunes qui voient prier. Des jeunes qui voient des gens d'espérance. Équilibrés et justement pas du tout névrosés, mais pas du tout. Et puis, des gens qui aiment, ceux-là, ils ont reçu quelque chose qui peut les aider à croire.
Si je vous comprends bien, donc, cette transmission de la foi n'est pas la responsabilité des seuls ecclésiastiques, des seuls prêtres, mais finalement la responsabilité de tous les croyants.
Un chrétien qui n'est pas un témoin est un traître à sa foi. Un traître.
Mais il y a quand même un problème, Isabelle Morale. C'est qu'actuellement, n'est-ce pas, on a l'impression, surtout peut-être depuis, il faut bien le dire, depuis le Concile, n'est-ce pas, depuis le Concile Vatican II, on peut avoir l'impression, n'est-ce pas, que les chrétiens eux-mêmes sont mal à l'aise devant l'héritage qu'ils ont pu recevoir, n'est-ce pas, que cet héritage est lui-même remis en question dès lors, n'est-ce pas. Qu'est-ce que l'on peut transmettre?
Ah. Alors là, vous posez des questions terribles. D'une part, il y a le Concile et il y a ce qu'on en a fait. Alors, moi je vous dirais à ce sujet-là plusieurs choses. Premièrement, le Concile, qui le connaît? Qui l'a vraiment étudié? Qui a pris la peine d'en donner des exposés? Vous savez, les 600 ou 700 pages de textes conciliaires, tout le monde ne va pas s'amuser à les lire. On aurait au moins pu les analyser, les diffuser et les faire connaître exactement pour les chrétiens. Ce travail n'a pas été fait. Secondement, parce que précisément il n'a pas été fait, on a fait dire au Concile des tas de choses que le Concile n'a jamais dites. Par exemple, le sacerdoce des laïcs. C'est pas du tout la même chose que le sacerdoce du prêtre. Ça a été dit et expliqué d'une façon parfaitement claire dans le Concile. Et vous rencontrez maintenant des prêtres eux-mêmes qui s'interrogent sur leur identité. Vous n'avez plus de vocation de prêtre. Il y a une incompréhension totale du Concile à cet égard. La liturgie. La liturgie a été rénovée. Elle a été rénovée pour être plus parlante. Parce que faut bien dire, l'habitude donnée aux cérémonies religieuses a un caractère extrêmement routinier. On allait assister à la messe, bien passivement, vers l'évangile. On partait à la communion. Et on se disait en règle. C'était le catholique du dimanche de 11h à midi. Même de 11h15 à midi moins le quart. Ça existait, ça. Il fallait bien qu'on demande aux chrétiens, aux catholiques d'être plus vrais. Alors, le latin. Il faut penser que la messe célébrée dans la langue du pays elle est plus compréhensible. Les lectures passent mieux, portent davantage. Les prières dites en français, ça porte davantage. Mais on n'a jamais demandé, et il a même été dit expressément le contraire dans les textes conciliaires, que les laïcs et les prêtres inventent tout le texte de la messe de dimanche en dimanche et inventent comme ils peuvent, quelquefois d'une façon fort médiocre, et qui agace une partie du public qui finit par se demander ce qu'il va faire à l'église et qui en conséquence n'y va plus. On ne nous a pas non plus demandé d'avoir ces petites chansons tellement médiocres, tellement vulgaires, que même avec de la bonne volonté, on a du mal à les chanter. Moi, je dois vous dire que de temps en temps, la liturgie me fait terriblement souffrir. Il faut quand même trouver des médiations pour aller à Dieu. Il y a une médiation très importante, c'est la beauté. Si vous vulgarisez la liturgie, vous coupez un des moyens les plus importants d'aller à Dieu. Alors vous voyez, on a fait des bêtises parce qu'on a mal compris le concile. On l'a mal compris parce qu'on ne l'a pas assez connu. La déclaration sur les libertés religieuses. Je connais maintenant des établissements d'enseignement catholiques. Je vous parle de catholiques. Donc, dont le caractère propre consiste à enseigner la religion catholique. Ou alors, ils n'ont aucune raison d'être devant la loi. Eh bien, dans ces établissements-là, je connais énormément de maisons où l'enseignement religieux est donné à titre facultatif pour ne pas porter atteinte à la liberté de conscience. Mais c'est une erreur monumentale, car vous n'avez jamais porté atteinte à la liberté en faisant connaître quelque chose. Si vous alliez donner des coups de bâton aux élèves qui se mettent pas à genoux, si vous alliez les obliger à réciter des prières, aller à la messe, à communier, à se confesser, là, vous ne respecteriez pas la liberté de conscience. Vous la respectez beaucoup plus en leur faisant connaître ce que c'est que la religion chrétienne que en faisant une catéchèse qui consiste à parler du Chili, du Salvador, de l'Afghanistan, de la drogue, du sexe ou autres histoires.
Vous contestez d'ailleurs beaucoup dans votre ouvrage « Être jeune et croire », vous contestez beaucoup cette catéchèse actuelle.
Ah, moi je pense qu'elle passe complètement à côté du sujet. Complètement.
Alors quelle catéchèse souhaiteriez-vous? Quelle forme pédagogique souhaiteriez-vous?
Alors ça dépend. Ça dépend, il faut beaucoup différencier sur l'âge des élèves. Les petits, je crois que il faut d'abord leur révéler qu'ils ont un père, qui est le père de leur père, qui est le père de tous les hommes. Il faut leur révéler Dieu, il faut leur révéler Jésus-Christ. Il faut leur révéler les grands principes du chrétien, l'amour et l'espérance. Et puis, une vertu chrétienne des petits, pas de tous les âges, mais c'est l'obéissance. Car un petit qui n'est pas encore en état de juger, il a été confié à ses éducateurs comme à des intermédiaires divins. Vous savez, cette vieille idée de l'éducateur qui est l'intermédiaire entre Dieu et le petit, c'est une idée qu'il faudrait bien mettre en honneur. Moi, je dirais des choses comme ça aux petits. Et avant tout, il faut éveiller en eux l'amour. C'est la première des choses. Et puis, un peu plus grand, on a quand même un credo. On vous dit que maintenant, il ne faut plus réciter le credo à la messe parce que les gens ne le comprennent plus. Vous comprenez que ça, c'est la pente savonneuse. Débrouillez-vous pour qu'on commence par comprendre le credo autant qu'il est possible. Autant qu'il est possible. Et dans le credo, il y a des actes de confiance à faire. En l'Église enseignante, on ne comprend pas tous les mystères. Il y a des mystères dans la religion. Je crois que il faut enseigner le sens du mystère. Parmi les innombrables sociétés que je fréquente, il y a un groupe intellectuel en Auvergne. On réfléchit sur la foi. où on s'est mis à disserter, il y a un mois, sur l'Eucharistie. Et alors, un beau philosophe du pays a trouvé sur l'Eucharistie une explication sensationnelle qu'il est allé chercher dans la linguistique.
C'est à la mode, actuellement.
Mais c'est un désastre. C'est un vrai désastre, n'est-ce pas ? L'Eucharistie, c'est un mystère. Si on veut supprimer les mystères de la religion, il n'y a plus de religion. Qu'est-ce que c'est qu'être Dieu et homme ? Comprenez-vous ?
Non.
Bon.
Si je vous comprends bien, Isabelle Moral, donc la foi n'est pas... C'est la foi qui est transmissible d'une certaine façon. Enfin, la question est transmissible, vous l'avez dit tout à l'heure. La foi n'est quand même pas acquise une fois pour toutes.
Oh non, elle n'est pas acquise. Mais vous êtes sûr de votre foi aujourd'hui ? Moi, je pense que ce serait le plus grand malheur qui puisse m'arriver que de la perdre. Et si je vous dis le fond de ce que je pense, j'aimerais mieux mourir maintenant, tout de suite, terrassé, foudroyé, une attaque ou ce que vous voudrez, que de penser que je peux la perdre. Et pourtant, je sais bien que je peux.
Alors, quelle est votre attitude face à cette situation ?
Je prie. Je demande au Seigneur. C'est un don du Seigneur, la foi. Ce n'est pas vous qui allez la donner à quelqu'un, hein ? Ni moi, ni personne, ni les parents aux enfants, ni les catéchistes. Ils peuvent servir d'intermédiaires humains. Ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est le Seigneur qui la donne. Alors, je la demande pour moi, pour vous, pour tous les amis qui sont là avec nous. Puis pour tous ceux à qui j'ai affaire.
Qu'est-ce que ça vous a donné dans votre vie de croire ?
Je ne comprends pas, je ne pense pas que la vie ait le moindre sens sans la foi. En dehors de la foi, il peut y avoir des choses très agréables dans la vie. La vie intellectuelle, c'est une joie sans bord. Faire des études, penser, avoir des amis, travailler, faire une carrière, y réussir, avoir une famille, se promener dans la nature, admirer la nature, faire de la musique. Tout ça, la vie peut avoir un prix sans la foi. Mais qu'est-ce qu'on cherche tout le long de sa vie, si ce n'est pas le sens de cette vie, ni plus ni moins, nous sommes tous promis à la mort, nous sommes tous perdants, aujourd'hui ou à échéance. C'est une grande farce qui n'a pas de sens. Si ce progrès continuel que nous cherchons à faire dans notre culture, dans nos relations, dans notre vie, si c'est pour aboutir à la pourriture finale, je ne peux pas admettre ça. Pas admettre. Ça me paraît le comble de l'absurde.
Et c'est là que votre foi intervient.
C'est le seul moyen qui donne un sens à la vie, qui la montre cohérente, équilibrée et vraiment digne d'être vécue. Sinon, la vie, c'est un désespoir courageux.
Isabelle Moral, vous avez dans votre enfance fréquenté les écoles religieuses. Estimez-vous que l'enseignement religieux qui vous a été donné était un enseignement aliénant ?
Aliénant, non. On m'a appris la doctrine chrétienne. Qu'il ait été très excitant tous les jours, ça, je ne vous le dirai pas. Quand nous étions petites filles, nous avions un catéchisme qui était par demande et par réponse. Il fallait l'apprendre par cœur et demande et réponse. On savait tout, je sais encore. Alors, est-ce que c'était vraiment s'adresser très profondément aux intelligences ? Je ne pense pas. D'autant plus qu'il y avait de temps en temps des élèves qui répétaient les formules de travers et qui disaient des bêtises invraisemblables. Bon, donc c'était pas très intelligent. Mais enfin, ça a été le premier stade. Après cela, on nous a donné des ouvrages fort solides, qui étaient d'ailleurs en usage dans les séminaires. C'était la doctrine catholique de Boulanger. C'était en 3 volumes. Il y avait vraiment tout ce qu'on peut savoir sur la doctrine catholique. Nous l'avons apprise. Là, on nous l'a développée. C'était un prêtre qui était chargé de l'enseignement religieux. Il l'a développé assez abondamment. Nous n'avions pas le droit de poser beaucoup de questions, c'était pas le genre à ce moment-là. Alors on écoutait, on apprenait et on croyait parce que il y avait quelque chose à ce moment-là. Nous avions confiance, et une confiance absolue, dans les gens qui nous instruisaient. Nous étions convaincus qu'ils nous disaient la vérité, qu'ils ne pouvaient nous dire que la vérité. Ils ne seraient pas venus à l'idée qu'ils pouvaient se tromper. Alors, ça nous rendait dociles.
Vous vous êtes jamais dit, justement, enfin, après une remarque comme celle-là, vous êtes jamais dit, on vous a jamais dit, eh bien oui, c'est ça, vous étiez au fond des esprits crédules, des esprits qui manquaient de sens critique, etc. Si vous aviez eu un peu plus de sens critique, eh bien, vous n'auriez pas réagi de cette façon.
Vous vous imaginez qu'à 16 ans, quand vous passez votre baccalauréat, quand vous lisez Diderot, quand vous lisez Montaigne, quand vous lisez Voltaire, quand vous lisez Nietzsche, quand vous lisez Schopenhauer, quand vous lisez Freud, vous ne posez pas de questions.
Alors ces questions, elles n'ont pas justement, elles ne sont pas adressées à vos professeurs de religion.
Alors, non, on ne les posait pas aux professeurs de religion, on se les posait à soi. En dehors du cours d'enseignement religieux.
Parce que vous trouviez que c'était plus important de vous les adresser à vous-même ou parce que vous pensiez au contraire que ces professeurs
n'auraient pas accepté. Ils n'auraient pas accepté que nous leur posions ces questions-là. Ils auraient considéré que nous étions des esprits forts et insoumis.
Et ça ne vous gêne pas d'avoir eu affaire à de tels éducateurs ?
Pas du tout. Ça ne m'a pas gêné. Je me suis posé ces questions à moi-même. Je me suis dit, ces gens-là font leur métier d'éducateur religieux. Ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Ils connaissent leur affaire. Ils exposent leur affaire comme un mathématicien m'expose son affaire. Et maintenant, c'est à moi de régler mes propres problèmes. Je reconnais que la méthode d'enseignement est mauvaise. Je ne la conseillerais à personne. Mais ça ne m'a pas aliéné.
En d'autres termes, vous pensez que tout n'est pas donné par le professeur, que chacun a pour soi à faire sa propre éducation de la foi.
Mais un élève, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui réagit, qui doit s'arranger avec lui-même, qui a sa vie intérieure, qui a sa propre débat, qui a ses propres débats. Ce qu'un professeur peut faire de mieux, c'est précisément inviter les élèves à débattre comme ça avec eux-mêmes. Ça leur rend grand service. Mais enfin, la doctrine catholique, il faut quand même la connaître.
Oui. Et je voudrais vous poser deux questions à la suite de ce que vous m'avez dit. Deux objections, en fait. Une qui vient, par exemple, de psychanalystes, de psychiatres, et qui vont vous dire, d'une part, n'est-ce pas, que finalement, cette doctrine catholique, elle est source de névrose. N'est-ce pas ? C'est une première objection. Il y a une deuxième objection que je voudrais vous poser à vous qui avez été dans l'enseignement toute votre vie. Certains éducateurs actuellement, surtout des éducateurs qui se rattachent aux théories de Piaget, vont dire cet enseignement religieux, cet enseignement doctrinal, en fait, étouffe la vie intellectuelle, étouffe et empêche la formation d'une pensée formelle. Je voudrais que vous me disiez quelle est votre position par rapport à ces deux objections.
Alors, premièrement, la névrose chrétienne.
Oui.
Névrose chrétienne. Grande question. Alors là, je crois simplement que les éducateurs devraient faire attention aux enfants crédules, scrupuleux, trop sensibles, et qui peuvent faire des contresens sur ce qu'on leur enseigne. Il peut y avoir de très mauvais éducateurs qui donnent du péché une notion effrayante. Mais c'est pas l'esprit chrétien, ça. L'esprit chrétien, c'est un esprit de miséricorde. Vous êtes un pécheur. Vous êtes un pécheur pardonné. Quel est vraiment le gamin qui a 8 ans, 9 ans, et qui, s'il est loyal avec lui-même, ne dira pas que de temps en temps, il est agressif, il est égoïste, il est jaloux? Il ment. Il sait bien qu'il est capable de pécher.
Oui, mais ça, ce sont des défauts. Est-ce nécessairement un péché au sens de la doctrine chrétienne ?
Ah, moi je pense que dès que vous êtes entraîné à manquer à l'amour et dès que vous êtes entraîné à manquer à la vérité, vous êtes un pécheur. Vous offensez Dieu, qui est l'amour et qui est la vérité. C'est dans ce sens que c'est un péché.
Oui, mais y a-t-il vraiment volonté de mal faire? Et pourquoi justement inculquer cette volonté
mais
de mal faire?
Les garçons et les filles, je vous dis, à 8 ans, savent très bien qu'il ferait mieux de faire autrement. Ne pas donner le coup de poing qu'ils ont envie de donner. De ne pas chaparder l'objet qui chaparde. De ne pas tromper leur père ou leur mère. Ils savent très bien, mais ils savent très très bien qu'ils font mal. Ils sont les premiers à le savoir. Seulement, cela ne doit pas leur donner le mépris d'eux-mêmes. Ils savent aussi très bien que lorsqu'ils ont reconnu leur erreur devant leur père et leur mère, ils sont pardonnés et qu'ils sont délivrés parce qu'ils ont été pardonnés. C'est ça, la mentalité chrétienne. Le pécheur pardonné.
Et pour vous, donc, ce n'est pas une cause de névrose?
Ah, je pense que la doctrine chrétienne enseignée dans l'esprit du Christ, qui est un esprit d'amour, 77 fois, 7 fois pardonné. Hein? Vous croyez qu'il y a de quoi faire des névrosés?
Déjà, le temps de faire le calcul, hein? Hein? 77 fois, 7 fois. Vous
croyez qu'il y a de quoi faire des névrosés? Le bon larron. Marie-Madeleine, l'ouvrier de la 11e heure, hein? La brebis perdue.
Et
livrée qu'on laisse dans le champ, le fils prodigue. Ça vous névrose?
Et l'autre objection, l'étouffement de la vie intellectuelle,
alors,
la curiosité.
L'étouffement de la vie intellectuelle. Alors, je pense que si vous assénez, une doctrine catholique sans en même temps donner une culture libérale, vous courez le risque d'étouffement intellectuel.
Qu'est-ce que vous appelez une culture libérale?
Eh bien, c'est connaître la science, la littérature et la philosophie, non seulement de son temps, mais qui s'est développée à travers les âges. Ce que on vous donne, somme toute, quand on vous fait préparer votre baccalauréat. On vous fait traduire Lucrèce. On vous fait étudier la Renaissance. On vous fait étudier ces hommes dont je vous parlais tout à l'heure, les Montesquieu, les Voltaire, les Diderot, les Montalembert, les Jean-Jacques Rousseau. Et puis, plus près de nous, les Bergson, Jacques Monod, les Freud, tout ça, ça vous pose des questions. Ça vous pose des questions. Les unes vous encouragent à croire, les autres vous font sérieusement douter. Alors, la doctrine chrétienne et cette culture, je pense que les deux sont très complémentaires. Si vous avez toute la culture universelle et pas la doctrine, vous êtes complètement perdu. Si vous avez la doctrine sans la culture, vous risquez d'être conditionné. Les deux, ça vous fait vraiment des gens équilibrés.
Isabelle Morale, le fond de la question quand même reste suivant. Est-ce que la foi que vous avez, c'est parce que cette foi-là, elle est transmissible?
Moi, je pense que tous les enfants, tous les hommes, de toutes les couleurs, sont faits à l'image de Dieu. Ils sont donc faits pour recevoir la foi. Ils sont faits pour ça. C'est ce qu'il leur faut. Par conséquent, la foi doit être transmissible si elle trouve ses accents. Le monde d'aujourd'hui la rend très difficile parce que nous vivons dans un monde où la pensée est technique, scientifique et expérimentale. Alors, nous perdons complètement de vue le sens des réalités invisibles, ce Dieu qu'on n'a jamais vu. Ce Jésus-Christ qui est mort et dont vous dites qu'il vit. C'est difficile à croire dans notre monde scientifique et expérimental. Ce monde dans lequel nous avons une telle notion de la relativité, parce que nous connaissons toutes les cultures, nous connaissons toutes les mentalités, nous connaissons toutes les différences d'évaluation morale, ça nous rend tout cela, la transmission de la foi, très difficile. Ben, le problème d'un témoin du Christ aujourd'hui, c'est de vaincre ces obstacles. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que vivre dans cette mentalité scientifique, techniciste et relativiste, cela rend les jeunes très malheureux. Ils veulent autre chose, ils cherchent autre chose, ils ne savent pas dire quoi. Quand ils vont se réfugier dans une secte, c'est pour ça.
Mais la foi n'est-elle pas une chose si personnelle que finalement, elle ne peut surgir que d'un mouvement de soi-même? Alors comment peut-on parler d'une transmission de la foi?
La foi, c'est un mouvement personnel, oui. C'est un mouvement personnel parce que c'est une réponse. Mais ce que vous pouvez transmettre, c'est l'appel. Quelqu'un qui ne connaît pas la religion chrétienne, ou qui la connaît mal, ou qui en a une image totalement déformée, ou qui s'imagine que c'est une espèce de superstition moyenâgeuse qui n'est plus du tout faite pour notre temps, quelqu'un qui n'a pas bien lu l'Évangile, qui n'a pas bien lu l'Ancien Testament, qui ne connaît pas non plus les développements que l'Église a donnés à la révélation à travers les siècles, par les conciles et par les définitions de l'Église enseignante, quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, ne sait pas ce que c'est qu'être chrétien. Alors, oui, la foi est un mouvement absolument personnel, c'est ce oui qu'on dit à l'Évangile. Vous ne pouvez absolument pas le transmettre, ça. Mais ce que vous pouvez transmettre, c'est la vraie connaissance de la foi et de ce qu'elle comporte et de ce qu'elle implique. Jésus qui s'est révélé comme la vérité, comme la vie, comme la lumière du monde. Jésus qui a parlé du Père, qui nous en a témoigné véritablement. Si vous ne faites pas connaître cela, comment voulez-vous que les jeunes répondent? Alors, je vous dirai toujours ça, qu'on ne sait pas assez. La connaissance est libératrice. Et l'ignorance est aliénante. Si vous laissez les jeunes dans l'ignorance religieuse, vous aurez de moins en moins de chrétiens. Alors, ce n'est pas la foi que vous transmettez, mais vous la proposez. Seulement, je crois qu'en la proposant aussi, il faut en donner témoignage. Il faut faire voir aux jeunes ce que c'est que des chrétiens. S'ils ne voient pas vraiment ce qu'est un chrétien, il ne suffit pas qu'ils aillent à la catéchèse. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Ben, il croit, il espère et il aime. Alors le premier témoignage à donner, c'est le témoignage de l'amour. Ça m'a toujours paru quelque chose de fondamental en milieu athée ou incroyant. Le témoignage de l'amour chrétien. Le témoignage de l'espérance. Les jeunes aujourd'hui sont désespérés par la vision du monde que leur donnent les informateurs. Ils en ont une vision catastrophique. Nous avons tous les jours, deux fois par jour, notre ration de misère, de conflit, de drame, de catastrophe. Et après ça, les jeunes vous disent, est-ce que dans ce monde-ci, est-ce que le monde actuel vous permet de croire en Dieu? Ils ont besoin d'espérance. Les choses qui permettraient d'espérer dans le monde, vous pourrez le dire à vos camarades qui s'occupent de télévision informative, on ne les voit jamais. On a très rarement une information tonique. Tant et si bien que je rêve toujours, parce que j'aime bien rêver, de monter une émission de télévision qui serait le quart d'heure de l'espérance, où on donnerait aux jeunes et aux autres et aux vieux aussi le témoignage de gens heureux, de vie heureuse, de la sérénité humaine. Il s'en fait des belles choses dans le monde. Alors pour en revenir à notre affaire, il faut être pour les jeunes un témoin d'espérance. Et puis il faut être, que voulez-vous, il faut être un témoin de foi. La foi, c'est dire ce que nous disions tout à l'heure. Seul, je ne peux rien. Tout m'est donné. Je ne peux quelque chose que dans la prière. Des jeunes qui voient prier. Des jeunes qui voient des gens d'espérance. Équilibrés et justement pas du tout névrosés, mais pas du tout. Et puis, des gens qui aiment, ceux-là, ils ont reçu quelque chose qui peut les aider à croire.
Si je vous comprends bien, donc, cette transmission de la foi n'est pas la responsabilité des seuls ecclésiastiques, des seuls prêtres, mais finalement la responsabilité de tous les croyants.
Un chrétien qui n'est pas un témoin est un traître à sa foi. Un traître.
Mais il y a quand même un problème, Isabelle Morale. C'est qu'actuellement, n'est-ce pas, on a l'impression, surtout peut-être depuis, il faut bien le dire, depuis le Concile, n'est-ce pas, depuis le Concile Vatican II, on peut avoir l'impression, n'est-ce pas, que les chrétiens eux-mêmes sont mal à l'aise devant l'héritage qu'ils ont pu recevoir, n'est-ce pas, que cet héritage est lui-même remis en question dès lors, n'est-ce pas. Qu'est-ce que l'on peut transmettre?
Ah. Alors là, vous posez des questions terribles. D'une part, il y a le Concile et il y a ce qu'on en a fait. Alors, moi je vous dirais à ce sujet-là plusieurs choses. Premièrement, le Concile, qui le connaît? Qui l'a vraiment étudié? Qui a pris la peine d'en donner des exposés? Vous savez, les 600 ou 700 pages de textes conciliaires, tout le monde ne va pas s'amuser à les lire. On aurait au moins pu les analyser, les diffuser, les faire connaître exactement pour les chrétiens. Ce travail n'a pas été fait. Secondement, parce que précisément il n'a pas été fait, on a fait dire au Concile des tas de choses que le Concile n'a jamais dites. Par exemple, le sacerdoce des laïcs. C'est pas du tout la même chose que le sacerdoce du prêtre. Ça a été dit et expliqué d'une façon parfaitement claire dans le Concile. Et vous rencontrez maintenant des prêtres eux-mêmes qui s'interrogent sur leur identité. Vous n'avez plus de vocation de prêtre. Il y a une incompréhension totale du Concile à cet égard. La liturgie. La liturgie a été rénovée. Elle a été rénovée pour être plus parlante. Parce que faut bien dire, l'habitude donnée aux cérémonies religieuses a un caractère extrêmement routinier. On allait assister à la messe, bien passivement, vers l'évangile. On partait à la communion. Et on se disait, en règle, t'es le catholique du dimanche de 11h à midi. Même de 11h15 à midi moins le quart. Ça existait, ça. Il fallait bien qu'on demande aux chrétiens, aux catholiques d'être plus vrais. Alors, le latin. Ben, il faut penser que la messe célébrée dans la langue du pays, elle est plus compréhensible. Les lectures passent mieux, portent davantage. Les prières dites en français, ça porte davantage. Mais on n'a jamais demandé, et il a même été dit expressément le contraire dans les textes conciliaires, que les laïcs et les prêtres inventent tout le texte de la messe de dimanche en dimanche, et inventent comme ils peuvent, quelquefois d'une façon fort médiocre, et qui agace une partie du public, qui finit par se demander ce qu'il va faire à l'église et qui, en conséquence, n'y va plus. On ne nous a pas non plus demandé d'avoir ces petites chansons tellement médiocres, tellement vulgaires, que même avec de la bonne volonté, on a du mal à les chanter. Moi, je dois vous dire que de temps en temps, la liturgie me fait terriblement souffrir. Il faut quand même trouver des médiations pour aller à Dieu. Il y a une médiation très importante, c'est la beauté. Si vous vulgarisez la liturgie, vous coupez un des moyens les plus importants d'aller à Dieu. Alors vous voyez, on a fait des bêtises parce qu'on a mal compris le Concile On l'a mal compris parce qu'on ne l'a pas assez connu. La déclaration sur les libertés religieuses. Je connais maintenant des établissements d'enseignement catholiques. Je vous parle de catholiques. Donc, dont le caractère propre consiste à enseigner la religion catholique. Ou alors, ils n'ont aucune raison d'être devant la loi. Eh bien, dans ces établissements-là, je connais énormément de maisons où l'enseignement religieux est donné à titre facultatif pour ne pas porter atteinte à la liberté de conscience. Mais c'est une erreur monumentale, car vous n'avez jamais porté atteinte à la liberté en faisant connaître quelque chose. Si vous alliez donner des coups de bâton aux élèves qui ne se mettent pas à genoux, si vous alliez les obliger à réciter des prières, ou aller à la messe, à communier, à se confesser, là, vous ne respecteriez pas la liberté de conscience. Vous la respectez beaucoup plus en leur faisant connaître ce que c'est que la religion chrétienne que en faisant une catéchèse qui consiste à parler du Chili, du Salvador, de l'Afghanistan, de la drogue, du sexe ou autres histoires.
Vous contestez d'ailleurs beaucoup dans votre ouvrage Être jeune et croire, vous contestez beaucoup cette catéchèse actuelle.
Ah, moi je pense qu'elle passe complètement à côté du sujet. Complètement.
Alors, quelle catéchèse souhaiteriez-vous? Quelle forme pédagogique souhaiteriez-vous?
Alors, ça dépend. Ça dépend, il faut beaucoup différencier sur l'âge des élèves. Les petits, je crois que il faut d'abord leur révéler qu'ils ont un père, qui est le père de leur père, qui est le père de tous les hommes. Il faut leur révéler Dieu, il faut leur révéler Jésus-Christ. Il faut leur révéler les grands principes du chrétien, l'amour et l'espérance. Et puis, une vertu chrétienne des petits, pas de tous les âges, mais c'est l'obéissance. Car un petit qui n'est pas encore en état de juger, il a été confié à ses éducateurs comme à des intermédiaires divins. Vous savez, cette vieille idée de l'éducateur qui est l'intermédiaire entre Dieu et le petit, c'est une idée qu'il faudrait bien remettre en honneur. Moi, je dirais des choses comme ça aux petits. Et avant tout, il faut éveiller en eux l'amour. C'est la première des choses. Et puis, un peu plus grand, on a quand même un credo. On vous dit que maintenant, il ne faut plus réciter le credo à la messe parce que les gens ne le comprennent plus. Vous comprenez que ça, c'est la pente savonneuse, débrouillez-vous pour qu'on commence par comprendre le credo autant qu'il est possible. Autant qu'il est possible. Et dans le credo, il y a des actes de confiance à faire en l'Église enseignante. On ne comprend pas tous les mystères. Il y a des mystères dans la religion. Je crois que il faut enseigner le sens du mystère. Parmi les innombrables sociétés que je fréquente, il y a un groupe intellectuel en Auvergne. On réfléchit sur la foi. Où on s'est mis à disserter, il y a un mois, sur l'Eucharistie. Et alors, un beau philosophe du pays a trouvé sur l'Eucharistie une explication sensationnelle qu'il est allé chercher dans la linguistique.
C'est à la mode actuellement.
Mais c'est un désastre. C'est un vrai désastre, n'est-ce pas? L'Eucharistie, c'est un mystère. Si on veut supprimer les mystères de la religion, il n'y a plus de religion. Qu'est-ce que c'est qu'être Dieu et homme? Comprenez-vous?
Non.
Bon.
Si je vous comprends bien, Isabelle Morale, donc la foi n'est pas... C'est la foi qui est transmissible d'une certaine façon, enfin, la question est transmissible, vous l'avez dit tout à l'heure, la foi n'est quand même pas acquise une fois pour toutes.
Oh non, elle n'est pas acquise. Mais vous êtes sûr de votre foi aujourd'hui? Moi, je pense que ce serait le plus grand malheur qui puisse m'arriver que de la perdre. Et si je vous dis le fond de ce que je pense, j'aimerais mieux mourir maintenant, tout de suite, terrassé, foudroyé, une attaque ou ce que vous voudrez, que de penser que je peux la perdre. Et pourtant, je sais bien que je peux.
Alors, quelle est votre attitude face à cette situation?
Je prie. Je demande au Seigneur. C'est un don du Seigneur, la foi. Ce n'est pas vous qui allez la donner à quelqu'un, hein? Ni moi, ni personne, ni les parents aux enfants, ni les catéchistes. Ils peuvent servir d'intermédiaire humain. Ils ne peuvent pas faire autre chose. C'est le Seigneur qui la donne. Alors je la demande pour moi, pour vous, pour tous les amis qui sont là avec nous, puis pour tous ceux à qui j'ai affaire.
Qu'est-ce que ça vous a donné dans votre vie de croire?
Je ne comprends pas, je ne pense pas que la vie ait le moindre sens sans la foi. En dehors de la foi, il peut y avoir des choses très agréables dans la vie. La vie intellectuelle, c'est une joie sans borne. Faire des études, penser, avoir des amis, travailler, faire une carrière, y réussir, avoir une famille, se promener dans la nature, admirer la nature, faire de la musique. Tout ça, la vie peut avoir un prix sans la foi. Mais qu'est-ce qu'on cherche tout le long de sa vie si ce n'est pas le sens de cette vie? Ni plus ni moins, nous sommes tous promis à la mort, nous sommes tous perdants, aujourd'hui ou à échéance. C'est une grande farce qui n'a pas de sens. Si ce progrès continuel que nous cherchons à faire dans notre culture, dans nos relations, dans notre vie, si c'est pour aboutir à la pourriture finale, je ne peux pas admettre ça. Pas admettre. Ça me paraît le comble de l'absurde.
Et c'est là que votre foi intervient.
C'est le seul moyen qui donne un sens à la vie, qui la montre cohérente, équilibrée et vraiment digne d'être vécue. Sinon, la vie, ben, c'est un désespoir courageux.
Isabelle Moral, je vous remercie.